On va ouvrir ces petites séquences sur la restitution des ateliers. Alors, c'est à la fois un exercice convenu et pourtant, c'est quand on veut travailler sur des apprentissages, c'est la phase qu'il ne faut pas manquer. Dans les classes, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il y a le cours ou il y a le programme. Et donc, on réserve que les apprentissages pour la maison, par exemple. Or, Romuald nous a signalé ce matin que travailler justement sur le tout, faire à la fois donner la vision du programme et travailler en même temps sur l'analyse du programme avec les élèves, c'était un bon facteur. Alors pour démarrer, puisque on travaille sur des choses qui ne sont pas évidentes, et on l'a bien vu à la fois ce matin et cet après-midi dans les ateliers où on manie des niveaux qui sont extrêmement différents, avec des expertises, des chiffres partout, des tableaux. Alors j'imagine, si vous êtes de formation plutôt littéraire, c'est mon cas, quand on voit des chiffres partout, des courbes, etc., avec des gros mots au sens propre du terme, ça peut décaler, ça peut faire peur. On dit, mais où est-ce que je suis tombé? Et donc, de toute façon, ça fait un peu l'effet que nos astrophysiciens ont quand ils commencent à parler de choses vraiment... experte, c'est-à-dire quand il commence à parler en milliards d'années, et puis avec des millions de kilomètres, on n'a aucune représentation de cela. Et donc je voudrais ouvrir ce chemin par une simple image, j'en ai repris d'autres. Alors, je voulais vous la faire découvrir, mais elle a déjà été découverte. Et donc deux ou moins personnes, vous avez été à savoir d'où elle vient. Oui. Alors, un l'a découvert, donc j'ai déjà son nom, il a plus deux déjà. Et non, alors, vous pouvez le signaler? Oui, oui. Bah, merci en tout cas de l'avoir reconnu. C'est un extrait, une toute petite partie, du tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, qui est ici au musée du Prado, à Madrid. Alors, quel rapport ça a avec ce que l'on fait? Aucun. Quoique, je vous aurais montré le Jardin des Délices, ça n'aurait pas été ça, ça aurait été l'ensemble du tableau. Or, je vous montre une toute petite partie. Ça montre que quand on veut, par transposition, quand on veut travailler justement sur l'évaluation pour les apprentissages, on travaille sur des effets de zoom. C'est-à-dire qu'on on va pas tout travailler, on va d'abord travailler sur quels apprentissages on veut évaluer et essayer d'avoir des effets de zoom avec les outils ici extrêmement modernes. Ce que je vous ai montré là, il y a presque même un mois ou deux mois, ça n'aurait pas été possible. Tout bêtement parce que Google nous met en place un outil assez extraordinaire sur les musées du Prado où il nous permet de zoomer à l'extrême sur 14 tableaux. Et donc on peut zoomer la partie que l'on veut et donc avoir des détails très forts. Donc on voit bien qu'il y a une dimension d'ingénierie, même une dimension de technologie dans les opérations qui sont extrêmement fortes, qui sont très nouvelles. Par transposition, quand on veut évaluer des apprentissages, et pour le coup maintenant évaluer pour les apprentissages, il y a une vraie ingénierie qui s'est développée, qui est assez récente, et sur laquelle il s'agit maintenant de travailler. Et donc ça, on voit bien que la société est en train de se transformer avec cela, et bien il n'y a pas de raison que nos métiers ne se transforment pas aussi de ce domaine-là. Et donc il y a un gros travail à tous nos niveaux, que ce soit au niveau des élèves, comme au niveau, on le voit avec les élèves, à nos niveaux enseignants, formation, inspection, que de précisément monter en puissance, on va dire, d'ingénierie à la fois éducative, universitaire, de recherche, et c'est pas le moindre des défis, donc il s'agit bien d'un domaine de la formation. Et puis, deuxième partie plus introductive, Romuald a évoqué largement nos amis anglo-saxons, et donc je voudrais juste saluer que pas que les anglo-saxons, il n'y a pas que les anglo-saxons qui ont travaillé dans ces domaines-là, qui ont travaillé sur l'évaluation pour les apprentissages, et donc c'est un message que je reprends ici de nos amis suisses, ici tiré de Molini, parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant en Suisse, ils avaient voulu faire leur révolution éducative et travailler sur justement une approche par compétences et un changement de leur système éducatif, même de pilotage même. Par canton, hein. Et donc au moment d'une régulation. Molini et l'équipe qui est derrière, c'était Pernoud, hein, c'était Gattier-Tuller, hein, ont adressé un message en disant ben voilà comment on le fait, et voilà quand il s'agit de former et d'accompagner des gens à faire ce qu'on est en train de faire ici. On doit se former et former pour et accompagner des équipes pour qu'elles fassent au mieux dans la direction qu'on a choisie, donc évaluée pour les apprentissages. Eh bien, il a adressé cette bouteille à la mer. Voilà. Pourquoi je dis bouteille à la mer ? Parce que ça s'est mal passé il y a peu de temps, finalement, en Suisse. Et il y a eu un choc en retour de la société civile, des parents notamment, par défaut, justement, on va dire, de communication. Et donc, quand on évalue pour les apprentissages, il y a de fait une dimension de communication évidente qu'on ne fait jamais assez. Et on le voit bien quand on accompagne. Je parle à mes collègues qui sont dans l'émission académique des équipes. Communiquer avec la société civile et les parents, notamment, est une chose essentielle si on veut transformer le mode d'évaluation. Autrement, il y aura une suspicion extrêmement forte de moins faire ou de moins bien faire. Et donc, quand ça réussit, ça marche parce qu'il y a l'allié objectif des parents. Voilà. Donc, je laisse ce message de bouteille à la mer. Et puis, je vais donc appeler par volet les trois rôles. Donc, je vous rappelle qu'il y avait trois rôles. Le rôle du compteur ou du compteur, comment dit, compteur des faits, le rôle du directeur subjectif et l'analyseur des acquis. Donc il y a trois ateliers et j'appellerai donc déjà à la barre les trois compteurs des faits. C'est un peu, d'ailleurs c'est pas une bête histoire, dans la pédagogie institutionnelle, quand on veut prendre la parole, on prend le bâton de parole. Hein, donc.
Ça marche. Hein. Bon, alors... nous, on a commencé par s'installer. Alors moi, je suis le compteur du groupe numéro 1. Je le précise peut-être, hein, c'était sur la littératie. On s'est installé. La présentation a été faite par l'animatrice de ses activités de chercheur. On a travaillé un petit peu sur la définition de la littératie, qui était un petit peu floue au début, qui l'est un petit peu moins. On a ensuite... vu un petit peu ce qu'il y avait également autour de l'historique du PISA, par l'observation de quelques items, vu les échelles de compétences, écouter des choses assez intéressantes sur tout ce qu'on pouvait dire sur le PIRLS. On a échangé des petits papiers pour faire ensuite une synthèse.
Donc moi je vais simplement donc restituer de quoi il était question dans l'atelier numéro 2 avec l'intervention de Sylvie Cuculou sur le titre d'abord, ce serait pas mal. Voilà, donc l'atelier 2, se posait comme question de comment les enseignants du premier degré traduisent les principes de qualité, d'efficacité et d'efficience dans l'exercice quotidien de leur profession. Donc cela s'est déroulé par une brève présentation de l'intervenante au sujet de son sujet, et elle se posait donc la question de questionner le mot « performance ». Ensuite, elle a procédé à un exposé de 30 minutes environ autour du thème de la performance, à savoir est-ce que c'est un nouveau paradigme pour l'enseignement, et notamment pour le premier degré, en s'attachant à définir les termes d'efficacité, d'efficience et de qualité, vu du point de vue de l'administration de l'éducation nationale, à travers sa politique qui va amener donc la question de l'évaluation. À l'issue de cet exposé, l'intervenante a ensuite exposé sa recherche, qui consistait par une étude des paroles enseignantes, de se rendre compte du décalage qui pouvait exister entre les critères formels d'évaluation de la performance par les politiques, on va dire, et donc le décalage qui peut exister à travers les mots des enseignants lorsqu'ils parlent de performance de leurs élèves ou du système éducatif. À l'issue de cet exposé, donc il y a eu un échange avec la salle d'environ 45 minutes, où un certain nombre de réflexions ont été faites ou de questions ont été posées. Quelques-unes. Est-ce que les enseignants... quelle est la visibilité des enseignants réellement sur la politique éducative, sur la LOLF, sur ses objectifs, sur la démarche européenne? Est-ce qu'ils ont été informés de ces questions-là? Il a été évoqué la différence, voire même le divorce entre le temps politique très court et le temps pédagogique beaucoup plus long. Ont été évoqués le fait que les enseignants n'ont pas attendu le troisième millénaire pour s'interroger sur les moyens d'augmenter les performances de leurs élèves. A été évoqué également la différence entre peut-être la réussite, qui est un terme qui renvoie peut-être au collectif, et la performance, qui renvoie à l'individu. Et enfin, peut-être aussi, le fait que les enseignants, à travers leur expression, traduisent avec leurs mots ou leurs propres critères leur prise en compte de l'évaluation de la performance. Donc ils sont capables de traduire cela, c'est leur préoccupation, mais ils le font avec leurs propres mots, sans pour autant parler de critères formels de la LOLF et autres éléments de la politique éducative. Et puis enfin, bien sûr, à 16h15, le responsable l'analyseur des acquis a interrompu la séance de façon à procéder à un recueil des différents points de vue de l'assistance. Et nous n'avons pas eu le temps dans ce groupe de faire un retour collectif sur cette question, mais ce sera probablement fait ensuite.
Bonjour. Alors dans l'atelier que nous avons fait, il était question... Vous m'entendez ? Il était question de la notation par compétences en maths à l'aide d'un logiciel, enfin d'un site internet qui s'appelle matix.org. Excusez-moi. Dans un premier temps, ils sont revenus sur l'insuffisance de la notation actuelle. Ils ont développé. Ensuite, ils ont expliqué qu'un autre système était proposé. C'était donc ce qu'ils proposaient. Où c'est une notation par compétence à l'aide de leur site internet, à partir d'une homogénéisation des barèmes, avec le système acquis en cours d'acquisition ou non acquis, pour toute la série des barèmes, l'exemple qu'ils ont pris est en collège. Le site internet a été bien expliqué en détail. C'est une plateforme qui est utilisable à la fois depuis l'élève, qui voit le résultat de la validation de ses compétences par devoir, et aussi une plateforme accessible par le professeur. Elle est donc de tableaux qui sont complétés en fonction des acquisitions ou non-acquisitions. Il y a des fiches méthodes qui sont utilisables par les élèves, des renvois qui sont possibles, donc site internet très complet là-dessus. Et ensuite, il y a eu une présentation de la comparaison qu'ils ont pu faire entre la notation par compétence grâce à leur site ou la notation traditionnelle. Et selon les types d'élèves, certaines erreurs sont plus frappantes lorsque l'on note de manière traditionnelle. D'autres élèves vont être défavorisés par la notation par compétence, ça dépend des cas et des faits. Et enfin, ils ont discuté l'évolution de leur projet avec la volonté d'intégrer la pluridisciplinarité dans leur site internet. Et les problèmes qui leur restaient, problématiques restantes, sur ce que signifiait la compétence par exemple, sur la généralisation des compétences globales, toujours une question d'interdisciplinarité. Et ensuite, nous avons discuté de ces approches, et nous nous sommes fait interrompre finalement par l'analyseur des acquis. Voilà.
Écoutez, merci d'avoir joué ce jeu de la restitution écrite le plus neutre possible. Est-ce que la neutralité a été facile?
Je pense qu'il y a forcément, bon, ce qui me concerne, j'ai essayé d'être le plus neutre possible, mais j'ai forcément oublié ou privilégié certains aspects. C'est tout le problème lorsqu'on commence à donner des exemples. Et donc, je prie ceux qui pensent que je n'ai pas bien restitué de m'en excuser.
Oui, je pense à peu près la même chose. En essayant justement d'être le plus neutre possible, on en dit le moins possible.
Exactement, oui, je pensais en dire beaucoup plus. Alors en réduisant, on est le plus neutre, on devient très neutre, je pense.
Donc plus on dit, plus on signale, moins on est neutre. C'est ce que vous dites. D'accord. Je sais pas. Ça pourrait, c'est une hypothèse que l'ADEP pourrait vérifier d'ailleurs. Alors, je voudrais... merci en tout cas, chers collègues, je vous libère. Sur juste la restitution des trois comptes rendus objectifs, faire trois remarques, et là je me place plutôt sur un point de vue d'analyse de pourquoi c'est intéressant de faire... Non, ça c'est autre chose. De faire le compteur des faits. La première des choses, ils l'ont dit, d'ailleurs ils l'ont dit, ils ont... essayer d'identifier, de dire ce qui était effectivement passé. Donc de dire, d'expliciter, de nommer ou de renommer les phases, c'était tout à fait intéressant pour eux, j'espère que c'est intéressant pour vous, c'était peut-être intéressant pour ceux qui n'ont pas du tout assisté, et ça serait encore plus intéressant si ça ne s'était pas fait maintenant, mais si ça serait fait, si on pouvait le faire par exemple, pour la fois prochaine. Pour ceux qui sont là la fois prochaine, pour faire ce lien en disant, mais écoutez, en mars prochain, nous, on a déjà travaillé et il y a tel et tel point qui ont déjà été abordés sur telle et telle chose. C'est-à-dire d'identifier des éléments objectivement qui ont été travaillés. Ça éviterait l'effet qu'on entend souvent chez des élèves, mais aussi chez des collègues. Quand on fait des réunions, qu'avez-vous fait ? Ah ben, on a parlé. Voilà. On n'a pas travaillé, on a parlé. Et donc, le fait juste de dire, bah, écoutez, quand on a parlé, on a fait quoi exactement ? Est-ce que tu peux les nommer ? Est-ce qu'on peut l'écrire ? Bah, c'est déjà pas mal. Donc, finalement, un premier acte d'évaluation, c'est déjà essayer de dire ce qui y est. Ce qui y est, est-ce qu'on peut poser un certain nombre de choses ? Donc, il y a un gros travail de description, avant même que de porter n'importe quel autre jugement, un gros travail de description. Et regardez ce que fait un médecin, je n'allais pas le généraliste, même un médecin généraliste le fait, mais un médecin, ce qu'on voit sur les experts, mais sur les morts, j'aurais pu trouver le... Légiste. Le médecin légiste, que fait-il ? Il décrit d'abord quelque chose qui se présente pour ensuite rentrer dans des hypothèses qui fait que, etc. Donc, rendre possible dans un groupe d'apprentissage l'attribuer et élargir cette base, c'est-à-dire que c'est pas le prof qui doit être celui qui doit dire ce qui s'est fait, mais plutôt demander à un élève ou à des rôles d'élèves, comme dans une réunion d'équipe aussi, peut-être de faire ce rôle tournant, c'est tout à fait intéressant. Alors le deuxième point que je voulais signaler avec vous, c'est le fait que entre ce qui est marqué sur le programme et ce qui est fait, il y a toujours une distance. C'est la vie. Toujours une distance entre ce que vous prévoyez, et d'ailleurs ce que vous surprévoyez. Hein, généralement, nous, profs, enseignants, formateurs, on prévoit trop de choses, et donc on arrive surarmé, et finalement, sans finalement laisser trop vivre la chose. Le groupe, dès qu'il y a un groupe, il y a quelque chose qui vit, qui va réagir, l'installation, etc. Donc, quand on dit « j'ai fait le programme », ont-ils appris ? Vous connaissez tout ça, mais les cahiers textes, c'est bien, ça ne dit pas beaucoup de choses sur les acquis des élèves. Et donc le fait de faire dire à un élève, ben, finalement, à des élèves, à des groupes d'élèves, finalement, qu'avons-nous vu la dernière fois ? Eh bien, ça resitue juste un peu le baromètre, quoi. C'est, j'ai traité la révolution russe. Oui, dis-moi ce que c'est bolchevique. Ouais. Bon, donc plutôt que de contrôler l'information directement par une action d'évaluation sommative, eh bien, faites-vous le feedback. Hein, multiplier ce feedback, c'est extrêmement intéressant. Et puis, la troisième remarque qu'on peut faire à propos du compte-rendu des faits, c'est qu'ils ont été tous les trois, ils ont signalé des indices à la fois sur des contenus qui ont été abordés, sur des procédures ou les protocoles des ateliers, comment ça s'est organisé, sur qui a fait quoi. Hein, ils ont dit l'intervenant, nous, etc. Donc on voit bien la répartition des faits. Et donc ça pose toujours la question de savoir... puisqu'on est dans une séance de formation, de savoir est-ce que finalement les ateliers, la diversité des ateliers comme ici, comme la journée, comme nos deux journées par exemple, sont adaptés à la meilleure configuration pour apprendre. Est-ce qu'une séance expositive ou que de l'expositif pur et dur, c'est la meilleure des façons pour apprendre ? Je n'ai aucune réponse à la question et je peux faire toutes les hypothèses, sachant que dans toute loi systémique, la variété est la meilleure des choses. C'est-à-dire que il faut à la fois des grandes séances expositives, un cours magistral à 200 personnes, il n'y a rien de mieux pour apprendre, mais s'il n'y a que des cours magistraux, à un moment donné, ça ne passera plus. Enfin, il y a un moment donné où l'apprentissage, c'est aussi autre chose. Et donc, c'est vraiment questionner à la fois les modalités de la formation, formation qu'on a entre nous, mais qu'on a aussi avec les élèves. Est-ce que 30 heures ou 35 heures d'une même chose, justement en raisonnant par heure, par exemple, c'est bon pour la formation et si on veut après travailler pour les apprentissages. Voilà. Donc il y a vraiment cette réflexion-là constante qui est une préoccupation toute professionnelle sur l'ajustement entre modalité et objectif. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on parlait d'objectif, il faut donner part à la subjectivité la plus totale. Et donc j'appelle à la barre les trois réacteurs subjectifs.
First, I want to forgive for my very, very bad French. I was in the first workshop with Mrs. Raymond. It was very interesting. But I'm going to speak English. It will be very easy for me and for you too.
Donc c'était le premier atelier sur la littérature. Ça va là si je parle comme ça?
Non, mais c'est bien parce que c'est enregistré.
Utiliser ce.
Laisser une trace.
D'accord. Ça marche? Oui. Oui. Alors, atelier 2. Ça a été aussi un grand voyage pendant tout le temps qui a été imparti sur cet atelier-là. Sur des mots. D'abord, moi j'ai été très sensible à la notion de lexique. Il y a d'autres choses, mais ça a été quelque chose d'assez fort pour moi. Performance, j'ai entendu un moment produit humain, un autre moment sur aller au résultat. Enfin, du moins, je l'ai traduit comme ça. Termes qui font très peur. Aller au résultat, il y a des gens d'une certaine génération qui savaient ce que ça voulait dire. Performance, effectivement, on a parlé de performance sportive. Bon, personnellement, le sport tel qu'il se présente n'est pas franchement le summum pour moi de la coopération humaine, mais bon. Il y avait donc des choses comme ça qui étaient beaucoup plus affectives. Et ce qui a été très intéressant, c'est de passer de l'affectif à l'analyse. C'est-à-dire de faire un peu une sorte de coupure tout à fait bénéfique entre ce qui reste un peu l'univers passionnel et puis commencer à comprendre comment fonctionne un système. Et je pense que là, ça donne quand même un sacré... de sacrés outils pour penser les choses et pour avoir des s'outiller, quoi, hein, pour comprendre le monde dans lequel on est, surtout ces réformes, ces systèmes, cette avalanche sur laquelle on est, un peu, si on parlait d'accélération du temps. Je dirais que c'est une réflexion que je me suis faite en sortant de là, c'était bousculant tout ça par rapport à ce que je vivais, moi, dans mes mots, sur l'humain. Et puis, la nécessité à un moment d'être plus fort que ça, plus fort que la passion elle-même, comme ça, de ne pas se laisser emporter, mais dire, analysons les choses et on va y voir qu'en toute clarté, bah, d'une certaine manière, ça démystifie un certain nombre de points. Ça permet de les réarticuler dans une histoire, les articuler dans un contexte. À partir de là, je me suis dit, bah, on est sorti de là avec quand même des sacrés outils de travail. et puis... sans que ça dévalue, moi, je trouve la position qui est un peu la mienne, puis qui est partagée par tout le groupe, sur cette valeur humaine. Je repense, là, on parlait de poésie, moi, je repars la philosophie de Kant, l'homme comme finalité sans fin, et quelque chose qui doit peut-être habiter l'école là-dedans, c'est que performance, mesure de performance, ça aide des humains à avoir des pouvoirs positifs. On n'est pas tellement puissant si on ne sait pas très bien lire, si on est condamné à subir le discours de ceux qui manipulent bien la langue. Alors, cette articulation-là entre la finalité sans fin et la notion de performance, moi je dis que c'est quand même quelque chose qui me permet, enfin, qui nous a été apporté à travers le travail qui a été mené là. Et bon, voilà, vraiment, on a eu un grand moment là-dessus, et moi j'en sors avec ça. Voilà.
Alors moi, j'étais dans le troisième atelier où on était sur la présentation d'un logiciel. Donc, je vais être beaucoup plus courte parce que j'avais compris mon rôle vraiment dans le sens du ressenti. Donc, au niveau du ressenti, je vais vous dire que j'ai d'abord été un peu énervée, comme souvent quand on utilise beaucoup d'outils informatiques. Ensuite, un petit peu questionnée par rapport à ma pratique habituelle. Je ne m'y retrouvais pas du tout. De plus en plus énervée. De plus en plus en colère. Et donc, du coup, je pense que la colère étant mauvaise conseillère, je vais prendre le temps d'écrire ce soir, d'envoyer un petit message à mes petits camarades, parce que je fais partie du Crabe Cahier Pédagogique, et c'est un lieu d'écoute et de bienveillance, où là, je sais qu'on pourra discuter. Et donc, ça m'évitera de dire des choses qui peuvent être, qui vont sortir du cadre de la journée. Voilà.
Alors, je veux vraiment saluer les collègues qui ont accepté de faire ce rôle, parce que c'est un rôle qui est complètement décalé. Où est-ce que la subjectivité, l'émotion ou la colère s'expriment dans le cadre de nos métiers ? Difficilement, c'est pas toléré. C'est même, si à un moment donné, on en parle comme ça, on vous regarde, on dit ben, « qu'est-ce que tu as ?» Ça fait peur. Enfin, on gère difficilement les émotions, et pas toutes sortes d'émotions, un certain nombre de niveaux, pas qu'émotionnels, et pas que ça. Des choses ont été dites qui étaient à saluer, et donc elles sont en même temps importantes, et elles montrent que des choses ont bougé, enfin bougent. Le terme de bousculer, le terme de énerver ont été utilisés. Il y a des choses qui font bouger. Mais effectivement, ça va être dur à reconnaître. Donc, je vous remercie. Vous pouvez regagner juste vos places pour. Donc, là aussi, je reprends cette phase un peu méta sur le pourquoi c'est intéressant de travailler sur le domaine de la réaction subjective. Alors, au moins pour trois points. D'abord parce que ça crée un décalage peut-être salutaire pour faire bouger un certain nombre de choses en matière d'apprentissage et d'évaluation. C'est-à-dire que peut-être reconnaître enfin, et le premier intervenant nous l'a signalé tout à l'heure en disant, de reconnaître le flou dans un univers complètement, qui peut sembler complètement technocratique ou technico-financier, pédago, administratif ou quelque chose, c'est pas mal. Et que les concepts lui-même sont en train de se travailler, que même l'évaluation et Kant, j'aime bien Kant, précisément, il y a un travail d'intériorisation de l'objectivité et d'extériorisation là aussi qui est tout à fait intéressant. Il faut vraiment le reconnaître. C'est-à-dire que je pense que la fameuse pédagogie par objectif, les tableaux d'objectifs, les grilles, etc., qui ont été un effort extrême d'objectivation de l'évaluation, ont montré un certain nombre de limites, précisément. Et on peut dire, écrire aux parents, et là, les Anglais nous l'ont montré, mais d'autres expériences en France nous montrent aussi, le fait d'avoir un jugement un peu expert sur l'enfant, un jugement un peu croisé, et écrit, mais qui prend en compte toute la dimension humaine de la relation, et beaucoup plus performant en termes d'accompagnement pour les apprentissages qu'une grille à 50 critères, par exemple. Donc, je pense que ça peut aider des collègues, et soulager même les collègues, de dire les évaluations instrumentées sont ce qu'elles sont, elles ne sont que des indications, même pas des indicateurs. Elles sont là que pour ça. Comme tous les logiciels qui notent à 9,23 ou 9,231 sur 20 ne sont que des instruments d'aide à la décision et pas la décision. Voilà. Il faut peut-être le redire, parce qu'il y a une sorte de fascination presque maladive hein, et collective. On regarde l'écran. Regardez, vous êtes en train tous de regarder l'écran. donc il y a cette il faut vraiment, je pense, soulager peut-être la conscience professionnelle sur l'histoire de la prise en compte de cette subjectivité intéressante dans la relation pédagogique, dans la relation professionnelle. Et donc, comment fait-on dans nos établissements pour faire que cette dimension soit prise en compte ? Moi, je voulais proposer ici, par ce biais de la réaction subjective, c'est-à-dire qu'on autorise par un rôle donner que quelqu'un s'exprime, et ce qui est dit est d'une grande richesse. Reconnaître le flou, reconnaître le basculement, ça montre, c'est le deuxième point, qu'on accède à des domaines plus profonds. C'est-à-dire que tant que je suis professeur agrégé 1980, modifié 95, ça ne dit rien et j'ai une vraie façade. Si je me permets à dire ce que j'ai entendu est en train de me faire vaciller sur un certain nombre de bases, et finalement, ça fait 20 ans que j'évalue d'une certaine façon, et je m'aperçois que ça fait 20 ans de fausses manœuvres que j'ai faites, c'est délicat, mais il faut le reconnaître, il faut faire ce deuil de cela pour pouvoir avancer. Hein, Pernoud le dit très bien sur cette opération-là. Il y a des éléments ici que vous apportez, qui sont apportés par la formation, qui sont très déstabilisants. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, ça répond à la question pourquoi ça ne marche pas en France. C'est que la profession s'est structurée d'une certaine façon qui fait que ce qui vient maintenant un peu de l'étranger, ce qui vient de l'Europe en partie, est quelque chose qui est en train de titiller profondément, et on le sent là. On le sent dans le ventre, ça touche des dimensions plus profondes, plus cachées, et peut-être c'est de ça qu'il faut travailler. Voilà. Et que ça, précisément, on passe à une notion de transformation. La formation peut transformer. Mais si vous ne le faites pas apparaître, et si on n'en parle pas à un moment donné, ça va être dur d'aider les gens à se transformer. Et donc là aussi, c'est une vraie réflexion sur comment on peut accompagner le changement, précisément. Et puis, le troisième point de la réaction subjective, on n'a pas eu le temps, et là, les collègues, ils n'ont pas eu le temps, ils ont évoqué, il y a déjà des poètes, des philosophes, hein, mais quand on laisse un peu le temps de la réaction subjective, c'est-à-dire que si, par exemple, on avait programmé la réaction subjective pour demain, les collègues auraient eu le temps, quasiment, de laisser cheminer la pensée, laisser cheminer la créativité. Et dans ces cas-là, il y a des choses qui apparaissent. De façon très étonnante, des images, on va projeter soit des images, il va y avoir de l'écriture qui va être produite, et c'est une dimension là aussi du métier qui est absolument pas courante en France, hein, mais qu'on voit apparaître dans d'autres pays sur le fait, par exemple, quand on dit c'est flou, eh bien, comment on construit un concept flou? Non, mais c'est intéressant. Les grands scientifiques actuellement travaillent sur la logique floue. C'est-à-dire que le flou est accepté en tant que tel. Et précisément, on va procéder, ce que vous disent les scientifiques, par approximation successive. Donc là aussi, il faut peut-être abandonner un certain nombre de lunettes trop cartésiennes pour, par exemple, permettre dans la subjectivité de dire, voilà, je construis une sorte de carte mentale du concept de flou, d'évaluation ou d'apprentissage. Et comment je peux le dessiner ? Et quand je dis dessiner, c'est qu'il y a véritablement une opération quasiment graphique à faire. Et si vous connaissez l'histoire des cartes mentales, par exemple, qui sont très animées et très développées chez nos amis finlandais... mais pas que quand même, mais anglo-saxon, on voit bien qu'il y a un effort de structuration par d'autres types d'intelligence que celle qu'on a en trois parties, trois sous-parties, ou en deux parties avec Sciences Po. Hein, donc il y a véritablement à permettre à s'exprimer ce genre de choses, et ça sera toujours du bénéfice pour le groupe que vous animez. Toujours, toujours, toujours. Et tout le monde ne va pas s'exprimer, mais ceux qui vont l'assumer vont le faire, et ça aura toujours de la résonance chez les collègues, chez les élèves, toujours. Vous assisterez à des applaudissements fréquents. Et donc c'est rare qu'on applaudisse dans une classe. Et bien là, vous allez avoir des élèves qui supportent un autre élève, au support, au sens de soutenir. Et pour des collègues, ça, il se passe aussi pas mal de choses. Donc en tout cas, c'est une invitation à prendre en compte ce domaine-là. J'appelle maintenant le troisième rôle, les analyseurs des acquis.
Donc bonjour, je vais essayer donc de retracer l'ensemble des acquis qui ont été évoqués donc par les sept personnes qui assistaient à l'atelier. Donc l'atelier portait sur la littératie. Donc le premier élément qui paraissait le plus revenir le plus grand nombre de fois concernait finalement la définition du concept de littératie, qui a été effectivement un concept flou, avec une multiplication des approches, et finalement ce qui a été le plus retenu, c'est comme définition un bon usage de l'écrit, qui était peut-être la définition la plus simple qu'on pouvait arriver à retenir après la multiplicité donc des définitions qui avaient été proposées et la multiplicité des approches. Ensuite, le deuxième élément a plutôt été un élément concernant finalement les tests PISA et PIRLS, et qui étaient donc qui sont pour nous plutôt des dispositifs dont finalement on nous a expliqué les modalités, les objectifs, les limites. Alors tout ça, bien évidemment, pas dans le même ordre que je vous le propose, puisque finalement, bon, on a abordé différents éléments successivement, et pas de cette façon-là. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est de bien arriver à distinguer les différences entre tests de niveau et puis les tests diagnostiques. Et puis surtout le fait que donc Madame Raymond avait amené des cahiers. Des cahiers de ces différents tests donc on a pu consulter. Donc ça nous donnait quelque chose d'un petit peu plus concret et tangible. Ensuite, la question qu'on s'est forcément posée tous, c'est finalement qu'est-ce qui est réellement évalué par les tests PISA, entre autres. On s'est arrêté plutôt plus sur ce test-là, et on a évoqué PIRLS après, mais beaucoup moins, à savoir finalement quelles sont les limites de ces tests et quelles sont les améliorations possibles. En sachant que on a vu qu'il y avait beaucoup de flou dans ces tests, qu'il y avait beaucoup de problèmes d'adaptation en fonction des pays, et que peut-être une des améliorations possibles, mais qui comportait également des difficultés, c'était de proposer un test en fonction de compétences qui était fixé, et que chaque pays allait décliner le test qu'il souhaitait en fonction de ses compétences, et que là, il n'y avait plus de problème de traduction, ou en tout cas beaucoup moins. Ensuite, le quatrième point, c'est un point qu'elle a relevé et qui me paraissait vraiment très intéressant, mais c'était relevé que par deux personnes parmi les sept. C'était le fait que finalement les résultats obtenus par PISA sur la littératie sont en cohérence avec l'enseignement qui est dispensé et qui se retrouve également de façon concordante dans les manuels français. Donc ça pose le problème sur l'enseignement de la lecture et les stratégies de lecture qui peuvent être adoptées et qui peut-être nous rappellent des problèmes d'actualité assez récents, quoi. Et puis ensuite, les deux autres points qui nous paraissaient intéressants, c'était sur le doublement des élèves, qui montrait finalement que plus le doublement des élèves est précoce, plus le niveau de littératie obtenu, atteint, est faible. Donc ça, ce qui interroge énormément sur nos pratiques françaises, puisque c'était quelque chose qui se retrouvait particulièrement en France. Et donc, mon collègue a relevé également qu'il y avait 10% finalement d'élèves qui restent en grande difficulté dans la vie quotidienne, sur l'écrit, donc sur le bon usage de l'écrit. Et puis, pour terminer, donc, alors c'était deux choses qui étaient peut-être un petit peu différentes que sur les acquis réellement de l'exposé qui nous était proposé, mais sur la capacité des chercheurs à se décaler par rapport aux préoccupations enseignantes, et finalement, la difficulté d'arriver à concrétiser ça dans le travail quotidien. Donc ça, c'était quelque chose qui apparaissait. Et puis, peut-être une réticence également à faire évoluer les pratiques en matière d'évaluation. Excusez-moi, je parle trop vite. Et peut-être ensuite, ça c'était suggéré par une des personnes, d'ajuster cette fois-ci les modalités aux objectifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément eu l'impression d'être dans un atelier, mais plus d'être dans un exposé.
Alors, donc, c'était l'atelier numéro 2 sur la question de comment les enseignants du premier degré traduisent les notions d'efficacité, de qualité et de d'efficience dans leur quotidien. Hein, voilà. Donc, alors, ce qui a été appris, donc. C'est un éclaircissement sur ces trois termes-là, sur le vocabulaire utilisé. Ce qui a été appris par l'ensemble du groupe, c'est, au dire des petits papiers, la lisibilité de la politique, qui apparemment, entre l'approche systémique, l'OLF, loi d'orientation et Europe, OCDE, a vraiment été appréciée en termes de lisibilité. Les liens qui ont pu être établis entre la politique et puis les exigences actuelles de mise en œuvre, les exigences d'évaluation. Ce qui ressort et qui a été appris aussi, en tous les cas, c'est un décalage alors, qui se profilerait entre la politique et le terrain. Alors, je dis qu'il se profilerait parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été vraiment apprises, en fin de compte, et qui ont été exprimées sur les petits papiers, c'est qu'en fin de compte, on n'a pas la réponse à la question. C'est-à-dire qu'après l'exposé, on voit bien que c'est quelque chose qui est en route, et on ne sait toujours pas ce que les gens du premier degré, comment le traduisent-ils, quoi. On ne le sait toujours pas, et on est dans l'attente. Voilà, sur la prochaine fois. Ça, c'était pour le contenu. Il y a eu l'expression de quelque chose qui a été appris sur la forme, donc sur l'atelier, qui était que les interactions pouvaient être formatrices. Et donc voilà, ça a été exprimé sur un bulletin, comme quoi, quand le sujet est bien posé, les interactions font apprendre et sont enrichissantes. Hein, donc voilà. Ceci étant...
Donc, moi, je vais vous rapporter ce qui a été acquis par les collègues sur l'atelier numéro 3, l'utilisation du logiciel Matix. Donc, trois chapitres essentiels. Premier acquis, déjà la connaissance de l'existence de ce logiciel, de ce projet d'ailleurs, parce qu'il n'est pas encore totalement abouti. L'utilisation de ce logiciel, comment on procède. Et puis les utilisateurs potentiels. Voilà. Deuxième chose apprise, la complexité de l'évaluation par compétence. Puisque le logiciel proposé, effectivement, propose une évaluation par compétence. Donc, difficulté à mettre en œuvre, de mise en œuvre. Troisième acquisition par le groupe, l'évaluation par objectif permet une meilleure lisibilité pour l'élève. Il peut savoir plus précisément où il en est dans ses apprentissages. Voilà.
Il y en a peut-être, moi, sur les 4-5 qui étaient relevés, il y en a peut-être deux principales qui me paraissent les plus importantes. Ça serait plutôt quel est l'intérêt de se soumettre à des évaluations et quelle obligation alors que ce sont des évaluations payantes. Donc ça s'est retrouvé plusieurs fois. Donc c'était une des questions. Et ensuite, que proposer pour faire évoluer l'enseignement avec plus d'efficacité en intégrant le levier de l'évaluation ? Deux choses complètement différentes.
Alors, les questions, ça marche ? Alors, il y a plusieurs... Il y en était nombreux dans le groupe, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Bon, alors, enfin, j'ai pu regrouper quand même, pour faire la synthèse, j'ai hiérarchisé un peu. Et la plus grosse préoccupation, c'est la préoccupation de la formation. C'est-à-dire de tout ce qui va être l'évolution des représentations des enseignants, avec ces nouveaux termes plus liés au vocabulaire de l'économie qu'au vocabulaire auquel on est habitué, auquel on a été formé. Donc cette évolution des représentations, changement des pratiques professionnelles, comment faire adhérer, comment convaincre, comment transformer les enseignants à cette nouvelle notion de performance sans déstabiliser, sans faire peur au corps des enseignants. Je crois que là, c'est une grosse inquiétude et préoccupation. Ensuite, un deuxième axe, c'est le re-questionnement. Je pense que profondément, il y a un re-questionnement qui se fait par rapport à la notion de réussite. Qu'est-ce donc maintenant que la réussite des élèves ? Et ce qui a déjà été évoqué par mes collègues, et au niveau des émotions, et au niveau de la description, c'est la place des valeurs humaines dans ce dispositif-là. Il y a vraiment un re-questionnement qui se fait, et qui va jusqu'à la motivation des enseignants à s'intégrer dans ces nouveaux dispositifs. Donc je pense qu'il y a un re-questionnement en profondeur qui se fait. Autre questionnement, là, beaucoup plus pragmatique, en fin de compte, c'est la traduction concrète. En fin de compte, comment faire concrètement sur le terrain pour évaluer cette efficacité, cette efficience et cette qualité. Donc là, il y a encore là, les outils, la question des outils. Même après cet éclairage sur les notions, en fin de compte, ça reste encore un peu nébuleux sur la mise en œuvre, sur la dimension concrète. D'autres questions, donc là, qui deviennent un peu plus éparses, c'est lié à la notion, il y a eu un re-questionnement aussi sur l'idée de performance individuelle et de performance collective. Ça, c'est venu avec l'idée du débat, dans le débat, où il y a une évolution comme quoi les performances individuelles auraient du mal à se faire et qu'elles ne pourraient pas exister sans la performance collective. Performance collective au niveau des projets, hein, le projet d'école, le projet de cycle, projet, on a parlé du projet académique, mais voilà, qu'il y aurait forcément cette notion de collective à revisiter. Et puis ben, une dernière qui est alors là somme toute très très pragmatique, c'est comment réinvestir tout ça demain pour la table ronde. Là je pense que c'est un de nos cadres là qui est une question fondamentale. Voilà. Alors je voulais juste conclure sur le fait de l'analyse, parce qu'en fait on était des analyseurs. Ben, je trouve qu'on n'a pas fait tellement notre boulot, d'abord parce que c'est difficile d'analyser comme ça à chaud et dans le temps qui nous est imparti. Ceci étant, sans faire de l'analyse d'ailleurs, parce que je ne suis pas armée pour faire une analyse sur tout ça. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans le groupe où on était, il y avait des corps d'inspection, il y avait des formateurs, il y avait des directeurs d'école et qui sont, qui découvraient en fin de compte, comme on le voit, ce qui a été le plus acquis. En fin de compte, c'est la découverte de la terminologie, la découverte de cette politique-là, alors qu'en fin de compte, ils devraient déjà, on se dit, voilà, moi je découvre, et je suis formatrice, qu'on est tous dans la même galère, quoi. Et que cette galère-là, elle n'est pas rassurante pour ces gens de terrain. Ceci étant, c'est pas pour rien qu'on est là. Donc voilà, c'était sans analyse, une réflexion, comme ça.
Tu rappelles effectivement qu'on devait analyser. Moi, j'ai plus le sentiment d'avoir synthétisé hein, les petits papiers. Mais bon, donc trois questions essentielles qui ressortent hein, sur mes petits papiers. Première chose, ne peut-on pas commencer par, ou au moins avant de mettre en place et d'essayer de construire des outils d'évaluation, serait-il possible de définir précisément ce que sont des compétences et ce que sont des connaissances ? Voilà. Deuxième question. Tout ce qui a été dit et vu au cours de l'atelier n'impose-t-il pas un travail d'équipe ? Alors, un travail d'équipe au sein des établissements, de chacun des établissements, n'est-ce pas là le lieu le plus facile pour construire des outils d'évaluation efficaces pour évaluer les élèves à qui on s'adresse précisément au sein de notre établissement ? Et deuxième chose, un travail d'équipe dans des groupes de réflexion. Le travail présenté là, concernant le logiciel Matix, il pourrait s'épanouir pleinement au sein d'un groupe de réflexion lié à la pédagogie, au contenu pédagogique, etc. Troisième type de question, évaluer, oui, dans les classes, mais quelle suite donner à ces évaluations ? Alors, notamment, comment garder trace de ces évaluations, avant tout pour aider l'élève en difficulté ? Comment faire évoluer les pratiques, si elles ont besoin d'évoluer ? Comment faire évoluer les outils ? Et donc notamment les outils pour conserver la trace, là encore, de l'évaluation des élèves. Voilà pour l'essentiel des questions.
Merci beaucoup. C'est un travail, effectivement, là encore, pas facile du tout. Effectivement, l'analyse demande du temps. Vous n'avez pas eu du temps, donc vous avez été confronté, comme nos élèves ont été confrontés, à de l'évaluation sur des choses qu'ils n'avaient pas apprises. Excusez-moi, mais c'était prévu. Alors, je reprends sur les points. Je voudrais donc compléter le tableau et faire que notre En analysant finalement la phase des ateliers, on s'aperçoit qu'on peut diffracter comme un prisme les ateliers et voir qu'un certain nombre de choses peuvent jouer. Et notamment quand on travaille sur de l'analyse un peu analyse modeste. On a demandé un peu d'écrit individuel. Chacun a dit ce qu'il a appris et ce qu'il a un élément et ce qu'il a questionné. Et on en fait une sorte de bilan. Alors, le premier point... C'est vraiment signaler que tout ce qui est apprentissage, et donc notamment quand on marque le point l'évaluation dans l'apprentissage, c'est d'abord un acte collectif, c'est un acte social. Si j'étais tout seul, j'évaluerais pas directement, ou pas comme ça en tout cas. Et donc on apprend souvent, et plus que souvent, la plupart du temps, par, pour et avec les autres. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, l'interaction a été signalée tout à l'heure. C'est pas souvent d'ailleurs ce que le maître va dire qui fait apprendre. C'est parce que le groupe est en train de tourner autour de choses qui est l'interaction que les choses vont passer. Quand on a travaillé sur les interactions dans la classe, on apercevait que quasiment il y avait tout ce qui était de l'apprentissage informel, c'était presque 50% des apprentissages. Donc si on veut augmenter la performance des élèves en termes de connaissances et compétences, il y a bien à travailler sur la prise en compte de ce facteur aussi important que la vie collective dans la classe, comme la vie collective dans l'établissement. Et donc ça renvoie, la question est une question donc collective. Ce n'est pas une question individuelle. Ça nous prend, le voir comme ça nous prend complètement en travers. Parce que jusqu'à présent, nos pratiques d'évaluation sont des pratiques individualistes, qui renvoient les gens à la compétition, à la comparaison sociale, à des choses qui sont très, très ciblées. On a, regardez quelle considération on a vis-à-vis d'un travail collectif pour les élèves. Ce n'est pas noté. Vous voyez ce que ça veut dire dans l'école, hein, ou le travail à la maison. Pas noté. Travail de recherche, pas noté. Comme si la notation accordait de la noblesse finalement au travail et qui est finalement le seul travail reconnu était le travail donc en classe, individuel, surveillé. Dans d'autres contextes, ça voudrait dire autre chose. Mais... Donc, il y a vraiment quelque chose à changer dans notre monde scolaire qui est sur cette notion vraiment de collectif d'apprentissage. Donc c'est le premier temps. Et donc, si on ne le fait pas sentir par nos collègues directement, ça va être dur à ce qu'ils le fassent sentir aux élèves. Et à un moment donné, il faut l'éprouver, ça aussi. Donc comment, dans nos organisations professionnelles, d'équipe, d'établissement, de circonscription, dans les formations, on fait éprouver que le travail est un travail d'apprentissage collectif. Donc tout ce qui va renvoyer à l'individu va accentuer ce qu'on connaît, tout ce qui va travailler sur plutôt le versant collectif et ici le versant professionnel. J'ai appris, j'ai écouté mes collègues et j'ai mesuré ce que mes collègues, quand bien même ils étaient positionnés différemment, ne savaient ou ne savaient pas. Ça me situe. Là, on crée une culture commune. Mais tant qu'on ne sollicite pas... Elle l'a dit parce que je lui ai demandé à un moment donné, et j'ai demandé au groupe de se manifester là-dessus. Si on s'était contenté de ne rien faire, c'est-à-dire de faire qu'une phase d'information descendante, on n'aurait jamais eu ce qui a été dit. Donc, le deuxième point, c'est le fait qu'il est extrêmement intéressant... Dans les classes, de travailler sur justement la combinaison entre la part individuelle et la part collective. C'est-à-dire que le savoir s'élabore collectivement. Je ne peux pas, vu mon attention, vu ma situation, etc., je ne peux pas saisir tout de ce qui se passe. J'ai mon point de vue, etc. Et donc la confrontation et l'élaboration d'une trace écrite, c'est pour ça que j'ai invité les collègues analyseurs là, des acquis, de s'ils pouvaient essayer de formaliser, de mettre en ordre... document Word, on ne demande pas un texte, mais vous avez fait une synthèse qui est extrêmement intéressante et déjà très ordonnée, eh bien reprenez ces éléments-là, c'est déjà les petites traces qui sont intéressantes. Alors, ce n'est pas une thèse de troisième cycle, mais justement, là aussi, arrêtons les fantasmes. une thèse Scrum, c'est que c'est quelqu'un, c'est une personne qui le fait. Un travail collectif, c'est un travail forcément imparfait. Vous avez tout à fait dit que dans les acquis, eh bien, on voit apparaître le fait que les concepts s'élaborent progressivement, qu'ils sont flous, qu'ils ont besoin d'être travaillés. C'est toujours des étapes, c'est toujours une réflexion à ressasser, il faut toujours revenir là-dessus. Et donc, il y a une dimension jamais finie du travail collectif. Et donc c'est vrai pour les classes, c'est vrai pour des établissements. Et donc le projet parfait, c'est un projet qui n'existe pas. Ou quand même, si même un projet parfait est présenté, il faut avoir beaucoup de doutes. Et ça, je pense que ceux qui ont l'habitude de voir passer des choses, on a le plus grand doute quand quelque chose est hyper ficelé. C'est-à-dire qu'on a accentué un côté com qui est terrible et qui montre que la matérialité, finalement, ne s'exprime pas. D'ailleurs, vous voyez bien maintenant que pour exprimer l'aspect organique des choses, on va exprimer des choses non finies. Regardez les produits cinématographiques, les produits musicaux, maintenant, on ne va plus chercher à lécher complètement, à parfaire complètement le produit, mais on va laisser des aspérités pour que ça donne de quoi s'attacher, de quoi s'incarner. Et donc un produit hyper léché, comme peuvent l'être quelquefois, c'est pour ça ce qui est délicat. Les résultats des évaluations internationales telles qu'elles nous sont présentées sont hyper léchés. Comment voulez-vous que, donc il n'y a aucune aspérité ni aucun défaut, si ce n'est que ceux qui sont signalés maintenant ici. Donc un des acquis, c'était précisément les limites. Et c'est vraiment intéressant de dire, tiens, finalement sur ce truc hyper glacé et qui vient d'un autre monde, tiens, finalement, ah oui, il y a une façon de le voir. Ah là, finalement, ça commence à devenir intéressant à ce niveau-là, parce que déjà, c'est un peu limité, c'est enfin humain ce truc, quoi. Parce qu'autrement, c'était absolument, ça nous descend de la planète Mars, mais c'est le film, c'est le choc des mondes, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai évoqué le choc des mondes tout à l'heure. Et puis la troisième dimension, il y a véritablement dans ce qu'on signale et donc l'intérêt ici, quelquefois plutôt long, c'est peut-être de travailler sur la restitution, de travailler sur l'élaboration collective, s'il y a un vrai enjeu démocratique. Si on renvoie les élèves à des sales performances individuelles, si on continue à travailler sur la valorisation unique de cet aspect-là, si on continue à avoir des évaluations individuelles de profs, bon, si on ne met pas en avant, au contraire, la coopération, la négociation, l'élaboration collective, eh bien, on aura la société qu'on aura. Voilà. Or, actuellement, le socle commun nous y invite, ont été mises en avant un certain nombre de choses relatives à la coopération sociale, relatives à la participation, relatives à la prise d'autonomie, qui sont des choses qui sont assez fortes. Donc faisons-les vivre, incarnons ces choses-là par des actes assez concrets dans l'établissement. Et donc ça passe par tous les actes de la vie, et d'abord par l'organisation des groupes. Donc il y a véritablement cet aspect-là à faire. Alors, juste une dernière diapo, justement, alors j'ai plein d'images, une dernière diapo pour donner juste à penser, où elle est passée cette image du... je vous l'avais projetée, celle-là. Parce qu'on est hors des temps, c'est ça. Alors, c'est une image... j'étais parti de Jérôme Bosch, maintenant j'arrive à la contemporanéité la plus totale. C'est une image tirée d'une bande dessinée. Vous reconnaissez le style, pas le style, le nom? Urbicand.b. Urbicand? Non. Bon. Belge. C'est un couple franco-belge, c'est Peters et Schuiten, ou Schuiten, et qui ont fait une série qui s'appelle Les Cités Obscures, et dont un des volumes magnifiques s'appelle Urbicand. Hein, et donc c'est tiré d'un de ces volumes. Et la petite histoire, je vous raconte juste la petite histoire qui fait qu'ici on a une image arrêtée du film de la BD finalement. C'est l'histoire d'un architecte d'une ville très vieille, comme Paris, comme Bruxelles, une ville très aristocratique, très hiérarchisée, très structurée, avec des hauts murs, tout en briques. Et dans cette ville, on amène à l'architecte un petit cube bizarre. Donc il dit, je verrai, il le pose comme ça, et sur son bureau, et puis il attend. Et puis il s'aperçoit que de jour en jour, le petit cube a grossi, et plutôt il a grossi en volume, mais il s'ancre dans le matériau. C'est-à-dire qu'il ne détruit pas le matériau, il s'ancre. Il traverse complètement son bureau, de jour après jour, il va traverser le mur, il va dépasser, aller dans la rue, et là on commence à s'en émouvoir. Et là, il y a des policiers qui arrivent pour essayer de contingenter la chose. Ça ne marche pas. On va envoyer l'armée, les canons, ça ne marche pas non plus. Cette chose va commencer à faire des ponts entre les choses qui étaient complètement séparées. Les deux rives étaient séparées. Et donc, tout d'un coup, ça fait des ponts inattendus. Ça veut dire que les gens passent sur l'un ou de l'autre, alors que ce n'était pas du tout prévu, surtout par la cité avant. Et même, ça devient un endroit à la mode. C'est-à-dire qu'il y a les gens vont commencer à habiter, il y a des commerces un peu illicites, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire dans une ville. Mais à un moment donné, ça prend tellement d'importance que pour véritablement voir ce que c'est, l'architecte va avoir besoin de passer le mur qu'il retenait, et donc on voit bien qu'il là, il sort de la ville, il passe le mur, il y a à un moment donné un phénomène de rupture. Il faut élargir, casser ce mur pour voir comment ça se passe et voir ce qui effectivement est en train d'agir. Et donc c'est juste une métaphore intéressante. En BD, elle est tout à fait intéressante. Et après, on voit bien que ça évolue. Mais pour essayer aussi d'expliquer, de donner une clé sur ce qu'on est en train de travailler peut-être en ce moment. Il y a quelque chose, donc on est dans un monde qui était hyper structuré, qui reste encore très structuré, avec un ordonnancement, une hiérarchie, des coutumes, des pratiques sociales, des métiers qui sont ce qu'ils sont. Et il y a quelque chose qui est apparu loin, qui grossit, qui ne détruit pas la vieille structure, mais en même temps qui est d'une autre nature, d'une nature avec une croissance ici un peu logarithmique, en tout cas extrêmement rapide, et qui va peut-être réorganiser toute une partie de la société, si ce n'est la ville tout entière ici, dans le cas d'Urbicand. Et donc, je ne dis pas que Pisa, c'est les cubes, hein, je dis que Pisa est une arête du cube, parce qu'il y a peut-être autre chose que Pisa, il y a d'autres choses qui sont en train de transformer à notre société, nos élèves, nous-mêmes. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut aussi travailler avec les enseignants, c'est comment identifier, nommer ces changements et comment aussi accompagner plutôt que de résister. Il y a une vieille règle en physique qu'on apprend. Hein. Quand on est en mouvement, il est très difficile de s'accrocher à un point fixe.